Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Saint-Roch.
Donc vous êtes une montpelliéraine, une pure jus.
Ben Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.
Amis auditrices et amis auditeurs de Racontez-nous Montpellier, bonjour et ravi de vous retrouver en ce début 2024. Aujourd'hui, nous allons parler politique, non pas en donnant la parole à un élu ou à une élue ou responsable d'un parti, mais en prenant du recul, en faisant appel à quelqu'un qui fait métier d'observer les phénomènes politiques, un chercheur, Emmanuel Négrier, que je remercie d'avoir répondu à mon invitation. Vous êtes directeur de recherche au CNRS en sciences politiques, vous dirigez l'équipe du CEPEL, Centre d'études politiques de l'Europe latine, rattaché à Faculté de droit et de sciences économiques, donc à l'Université de Montpellier. Alors, conformément à la formule de cette émission, commençons par... vous écoutez, nous racontez votre Montpellier. Emmanuel Négrier, quels sont... Donc vous êtes un Montpellier de naissance, pur jus, comme on dit.
Oui.
Quels sont les différents lieux qui ont marqué votre vie à Montpellier, pour lesquels vous avez un attachement historique ou sentimental?
Le premier, c'est la maternité de l'avenue du professeur Grasset, qui est désormais devenue la cité des arts. Après, ça a été la cité de la chambre de commerce, un ensemble de logements sociaux qui faisait partie...
Qui était où, donc?
Qui était, disons, autour de la route de Mende, dans ce qui allait...
au nord de Montpellier.
Saint-Éloi, donc. Tout ça, ce quartier-là. Et puis après, les années venant, j'ai pu connaître le vieux stade du Somme, avenue du Pont Juvénal à Montpellier, un stade en bois.
Que les amateurs de foot, les anciens en tout cas, connaissent bien.
Notamment de foot, il y avait aussi du jeu à 13 à l'époque. Voilà, j'ai connu la butte Payade avant qu'elle soit couverte.
La
fac, bien que je n'ai pas fait l'essentiel de mes études à Montpellier. En fait, à l'issue de mes études secondaires, après le lycée Joffre, qui est un de ces lieux aussi importants pour moi, où je suis revenu d'ailleurs en tant que surveillant à la fin de mes études, j'ai fait l'essentiel de mes études à Grenoble, à Sciences Po à Grenoble. Et je suis donc revenu à Montpellier.
Oui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Sciences Po à Montpellier.
Il n'y avait pas Sciences Po à Montpellier. Donc, on était, pour ceux qui voulaient faire des études politiques, on était un petit peu coincés par rapport à une offre
donc
qui était soit juridique,
pour le coup,
soit économique ou commerciale. C'était Grenoble à l'époque. Bon, Toulouse également existait, mais mon choix s'est porté sur Grenoble à l'époque.
Alors, quand vous recevez des amis ou des parents de passage à Montpellier, donc quand vous faites le guide non rémunéré de l'office de tourisme, qu'est-ce que vous leur conseillez d'aller voir, d'aller découvrir, pas nécessairement les lieux qui font carte postale, mais qu'est-ce que vous dites à vos proches qui viennent découvrir Montpellier ou redécouvrir Montpellier?
Je dirais d'un côté le vieux centre-ville et ses ruelles qui plaisaient si peu à Stendhal. Moi, ça a toujours pour moi un charme de promeneur.
Le
Montpellier, absolument, le Montpellier médiéval. Le Montpellier aussi des faubourgs début du XXe siècle. On a le choix entre les archives Boutonnet, la rue de la Méditerranée, le quartier Chaptal, etc. Et puis, Montpellier ne serait pas Montpellier s'il n'y avait pas aussi les possibilités assez rapides d'aller à la mer. Et évidemment, Carnon-Plage, ça a toujours été pour moi un lieu à la fois de célébration amicale et en même temps de balade et de plaisir.
Alors, vous le savez, Montpellier s'installe, se définit comme une métropole, à la fois, c'est une acception institutionnelle, mais pas que. Par rapport aux autres métropoles françaises, à votre avis, qu'est-ce qui caractérise Montpellier? Qu'est-ce qui singularise notre ville?
Alors, moi, je dirais ce qui la singularise, c'est le caractère extrêmement rapide du volontarisme métropolitain pour une ville qui n'avait pas de caractère métropolitain à la base. Selon les vieux travaux de Raymond Dugrand,
finalement... Alors, géographe, ancien adjoint au maire à l'urbanisme pour les jeunes auditeurs qui ne le connaîtraient pas.
Voilà, quand il a fait son analyse des villes et campagnes en Bas-Languedoc, il disait finalement Montpellier, c'est un petit élément dans un chapelet de villes moyennes.
Et finalement, à peu près comme Nîmes et Béziers, quoi.
Comme Nîmes, Béziers, Perpignan, en gros. Hein. Et finalement, petit à petit, Montpellier, grâce au statut de capitale régionale, et puis ensuite grâce au volontarisme d'un certain nombre d'acteurs, et en particulier Georges Frêche, mais aussi l'afflux des rapatriés, notamment des rapatriés d'Algérie dans les années 60, Montpellier est devenu un pôle de croissance métropolitaine.
J'ajoute dans les phénomènes qui me semblent avoir induit cette croissance, la décentralisation d'instituts de recherche qui étaient ailleurs et qui sont venus s'installer à Montpellier, et bien sûr quelques grandes entreprises emblématiques comme IBM.
Donc
cette confluence, je dirais, de décisions publiques et privées qui ont engendré cette trajectoire montpelliéraine.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir comment ça s'est passé, parce que IBM n'avait pas choisi Montpellier, par exemple, avait choisi Béziers pour s'installer.
Aujourd'hui, ça étonne.
Oui, et les conflits liés à la désindustrialisation de Béziers, notamment les usines Fouga Magister, qui existaient à l'époque.
Donc finalement, c'était des avions?
Oui, c'est ça, tout à fait. Des avions, on le sait peu aujourd'hui. Et donc, il y avait une sorte de cristallisation des protestations autour de la CGT qui ne voyait pas d'un bon œil l'installation d'une multinationale américaine. Ce qui fait que finalement, ils sont allés toquer à la porte de François Delmas, le maire de Montpellier avant, Georges Frêche, qui leur a dit « vous pouvez vous installer là ». Mais ça n'a pas non plus été le déroulement d'un tapis rouge, finalement, par rapport au pont d'or qu'on fait aujourd'hui, aux structures Amazon, qui créent d'ailleurs peu d'emplois et dans des conditions extrêmement critiquables aujourd'hui.
Sur le plan social.
Voir ce qu'on leur accorde comme privilège, ou Disney, Disneyland, pour Euro Disney par exemple, dans la région parisienne, IBM n'a pas bénéficié à l'époque d'autant de largesse, mais a eu un rôle extrêmement important dans la présence dans cette région de nouvelles populations, de leurs familles et d'un niveau de cadre qui manquait à la population.
Donc ça, ce sont les différentes sources de cette mutation de Montpellier qui s'est poursuivie sur tous les plans urbanistiques, la population ces dernières années. Et quel regard vous portez? Parce qu'il y a deux types de comportements. Des vieux Montpelliérains, entre guillemets, qui se sentent quelque peu dépossédés de ce qu'était la ville il y a deux ou trois décennies. Mmh. Et d'autres, peut-être, qui sont plutôt favorables au mouvement, au mouvement des hommes et des femmes, au mouvement des idées, au mouvement des affaires, qui structure, me semble-t-il, la trajectoire de Montpellier ces dernières années. Vous le voyez d'un bon œil ou de...
Oui, on connaît bien, par exemple, un philosophe comme Michéa a souvent développé cette idée que finalement, Montpellier, à force de vouloir être métropole, a fini par le devenir d'une manière un peu artificielle par rapport à un âge d'or montpelliérain qui était plutôt fait des lieux dont j'ai parlé tout à l'heure, et de des lieux, pas simplement des lieux physiques, mais des lieux sociaux aussi, des formes de convivialité. Moi, je trouve que il y a toujours eu, d'une part, une espèce de volonté de rappeler des racines et des bons moments dans sa vie qui sont souvent, par définition, avant.
Oui,
mais que finalement, cette construction de la ville, elle offre aussi des possibilités qui étaient complètement hors de portée d'une très grande partie de la population extrêmement précarisée et peu traitée, notamment en termes de logement, par exemple, par les municipalités antérieures. Donc, il faut faire attention quand on parle d'un âge d'or formidable. agréable.
Reconstruire le passé, oui.
Voilà,
exactement. Avec une bonne couche de nostalgie.
Exactement. Et puis, le passé, le passé de demain, il est sous nos yeux. Donc, je pense que la période que nous vivons actuellement, qui est une période un peu particulière, avec un taux de renouvellement de la population au cours des 40 dernières années qui est absolument stupéfiant, mais ce moment-là de Montpelliérain, c'est un moment qu'on regardera peut-être dans 40 ans avec la même nostalgie.
Bon. Très bien. Alors, on en vient maintenant plus particulièrement au vif du sujet. Et d'abord, dites-nous quel est votre métier, parce qu'on parle de politiste, de politologue. Donc, vous voulez bien expliquer aux auditeurs comment vous travaillez, sur quelle matière, vous et vos collègues, dans ce qu'on appelle la science politique au sens large. Et puis on abordera quelques-uns des sujets afférents à la science politique.
Alors, je suis chercheur en sciences politiques. Pourquoi je vais dire tout de suite ce qu'est la différence entre un politologue et un politiste. Parce que les chercheurs en sciences politiques ont développé des objets, des méthodes, des terrains de recherche empirique. Et le politologue a été un tout petit peu galvaudé par le fait qu'un certain nombre de chercheurs en sciences politiques ou de profs, quelquefois même de droit public, ont multiplié les interventions à la télévision avec des visions extrêmement générales, un peu éthérées, avec des préférences politiques plus ou moins exprimées. Et donc, les chercheurs en sciences politiques ont dit qu'il faut trouver un autre terme que politologue, parce que politologue, c'est un peu dévalorisé,
c'est un peu
médiatisé, voilà. Donc, alors moi, je suis pas d'accord avec ça. On peut se battre sur le terrain du mot, et j'estime que les politologues, c'est tout le monde comprend ce que c'est qu'un politologue. Oui. C'est quelqu'un qui fait de la science politique, en gros.
Comme un cancérologue ou comme un... Voilà, on comprend l'objet.
Voilà, si c'est pas parce qu'il y a des cancérologues hyper médiatisés que d'autres vont préférer le terme cancériste. Donc, moi, politiste, je trouve que ça parle à personne. Et mon objectif dans la vie, c'est évidemment de faire des recherches en sciences politiques, mais aussi de parler au plus grand nombre quand c'est possible et de rendre le plus explicite possible les
Vous
résultats
le faites
de mes recherches.
Au micro de Divergence FM, et c'est pas la première fois, donc merci. Alors, je l'indique aux auditeurs, la culture, les politiques culturelles sont de vos principaux domaines de recherche. Parlons donc de la candidature de Montpellier au titre de capitale européenne de la culture. Avant que ne soit connu le résultat de cette compétition, dans une interview ou un magazine local, vous disiez « La candidature de Montpellier est le levier d'une ambition territoriale, certes encore un peu virtuelle, mais avec des enrôlements qui étaient inimaginables il y a quelques années. En effet, c'est moi qui l'ajoute, de Sète à Lunel, du Gros-du-Roi à Agde, du Pic-Saint-Loup et de la vallée de l'Hérault au Pays de l'Or, les intercommunalités se sont rassemblées autour de la métropole de Montpellier. Montpellier a donc perdu au profit de Bourges. Depuis, le discours officiel et unanime de tous les élus, Michael Delafosse l'a redit hier soir dans son discours des vœux, est d'affirmer, je cite, « cette belle dynamique lancée se poursuit. À vos yeux, est-ce que cette coopération dans la création, la programmation et la diffusion de la culture dans ce vaste territoire est-elle possible ? Et si oui, à quelles conditions ?
Alors, un, elle est possible. Deux, elle est même nécessaire. Je dirais politiquement, elle est saine. Parce que, le destin des métropoles en matière de culture a longtemps été, finalement, on est une métropole, donc on bénéficie de financements extraordinaires de la part de l'État, de la région, quelquefois du département. On a des équipements qui représentent ce qu'on appelle des labels, c'est-à-dire qui sont distingués pour leur capacité de développement culturel, mais auprès d'une population qui reste majoritairement celle de la ville-centre. Et là, il y a une sorte de décalage politique problématique entre la vocation de ces instruments d'action et de ces financements culturels et l'étroitesse de la population qui en bénéficie. Donc, il est, à mon avis, non seulement normal, mais nécessaire que les modèles métropolitains de la culture, d'une part, s'adressent à la totalité des populations et des territoires de la métropole, mais également aillent plus loin.
Au-delà.
Voilà. Je donne juste un exemple. La bibliothèque, la médiathèque Émile Zola, c'est ce qu'on appelle, dans le jargon, une bibliothèque municipale à vocation régionale. Si elle a autant d'argent, de moyens, de ressources ça n'est pas pour s'adresser à un public d'Antigone ou de Montpellier.
C'est une mission régionale.
Une mission absolument large. Régionale. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'effectivement, vous l'avez noté, ce terrain, ce territoire qui va de Gignac à Sète, en passant par Lunel et Montpellier, c'est un terrain qui a été un terrain de jeu extrêmement conflictuel entre la région, le département, la ville de Montpellier, les petits maires des communes voisines de Montpellier. Et c'était un terrain plutôt de conflit que de coopération.
Et de concurrence telle qu'elle apparaissait d'ailleurs aux yeux des électeurs et des consommateurs de culture.
Tout à fait. D'une certaine manière, c'est intéressant que de ce territoire qui était plutôt marqué par le conflit, on aille vers un territoire qui favorise des coopérations. Des coopérations qui sont, je dirais, d'autant plus nécessaires qu'on est dans une métropole qui a des problèmes que toutes les métropoles connaissent d'accueil, d'homogénéité territoriale, d'égalité des conditions de vie, de développement durable et de limitation autant que possible de l'empreinte carbone. Toutes choses qui ne peuvent pas être gérées à l'échelle d'une petite ville centrale.
C'est une question d'échelle territoriale pertinente.
Absolument.
Ça vaut dans d'autres domaines, je le dis au passage, puisqu'il y a l'aspect du développement économique où la même démarche est engagée, et également dans la question des transports, des déplacements, où avance une vision plus large qui ne se limite pas aux frontières actuelles de la métropole.
Voilà, et effectivement, je reprends votre mot de vision, en fait, si tout ça, c'est aussi une affaire de vision et pas simplement de moyens et de structure, ça veut donc dire que la culture a un rôle à jouer particulièrement important dans la production d'une vision commune et ouverte. Parce qu'il y a des visions communes qui sont particulièrement fermées. On en connaît notamment dans le spectre droit, voire d'extrême droite, de notre vie politique.
Très bien. Alors, on passe à un tout autre sujet, mais qui renvoie bien sûr à votre métier, à votre spécialité. Publié en septembre dernier, une étude intitulée « Une histoire du conflit politique, élections et inégalités en France 1789-2022 » a eu un grand écho. Elle a été réalisée par deux économistes, Thomas Piketty et Julia Cagé. Ils l'ont présentée à Montpellier dans la programmation de l'Agora des Savoirs. Auditrices et auditeurs, vous pouvez retrouver cette conférence en podcast sur le site de Divergence FM. Alors, je n'ai pas lu ce pavé de 864 pages, mais bon, un certain nombre de journaux ont consacré plusieurs pages à la recension de ce travail. Pouvez-vous nous indiquer d'abord les points majeurs de ce travail, en quoi ils apportent du neuf dans la compréhension des phénomènes politiques? Et puis, deuxième volet, si vous voulez bien, vous nous direz ce que vous en pensez, puisque plusieurs des thèses avancées par Piketty et Cagé ont suscité le débat, voire la controverse. Alors, en gros, là, pour les électeurs et auditeurs qui nous écoutent, qu'est-ce qu'il faut retenir de l'apport de ce duo d'économistes dans la compréhension des phénomènes politiques en France ?
Alors, bon, je dirais d'abord, il faut le lire parce que tout jugement un peu hâtif sur le livre ne rend pas hommage au travail colossal qui a été entrepris. Donc, la première chose, c'est un travail colossal. C'est un travail qui recense toutes les élections à caractère national, législatif, présidentiel,
dans toutes les circonscriptions.
Depuis 1848, à l'échelle municipale,
voilà.
Depuis 1848 jusqu'à 2022 compris, et qui prétend faire une analyse de cet ensemble avec, je dirais, pas simplement le regard du chercheur méthodologue qui fait des graphiques, mais avec aussi un parti pris et une croyance, au fond, une croyance politique, un engagement politique. Et ça, moi, ça me plaît énormément. J'aime beaucoup les chiffres, mais je les aime pas assez pour m'en contenter. Et quand les chiffres sont interprétés de cette manière-là, en gros, je trouve qu'il y a à la fois quelque chose de passionnant de revisiter cette histoire très longue qui n'avait jamais été entreprise.
C'est sans précédent.
On n'avait jamais numérisé les résultats des élections de 1793, par exemple, de 1848. Il y a des choses totalement inédites dans ce bouquin. Et puis il y a un parti pris qui consiste à dire, en gros, je résume à grands traits.
Oui, activement, bien sûr.
Bon, on a vécu une période de tripartition avant 1910, avec en gros un pôle radical, un pôle de gauche, plus ou moins dessiné à grands traits, un pôle conservateur et puis un pôle monarchiste rétrograde, on va dire. Bon. Et puis on est passé, à partir de 1900-1910 et jusqu'en 1992, à une bipolarisation avec deux grandes forces, en gros droite-gauche. Et c'est dans cette, donc parti pris des auteurs, c'est dans cette période-là qu'on a connu, par cette alternance et par la clarification des positionnements politiques, les plus grandes avancées démocratiques, les plus grands services publics, les meilleures conditions de vie.
Donc, je vous coupe, dans un paysage politique simple, binaire en quelque sorte.
Oui, finalement.
Comme, bon, on l'a connu hein, jusqu'à ces dernières années. Hein, donc.
Oui, on n'a jamais connu de période bipartisane. Par rapport aux États-Unis, par exemple, ce n'est pas le cas. Par rapport à une grande partie de l'histoire politique de l'Angleterre, ce n'est pas le cas non plus. Mais bipolarisation, oui, droite, gauche, et on voit bien à quoi ça correspond. Et puis depuis 1992, on est dans une logique de tripartition qui rend les choses beaucoup plus problématiques, et notamment les choses problématiques du point de vue du brouillage. Du rapport entre la politique et les inégalités sociales. Parce que l'autre parti pris de cette vaste étude, c'est de dire que pour expliquer le comportement politique, le fait de voter ou pas, et puis le fait de voter dans telle ou telle direction, eh bien, c'est les conditions sociales de vie qui l'expliquent. Ce n'est pas le phénomène de rapport à l'autre, d'une espèce de logique identitaire.
Voilà, des marqueurs identitaires. Voilà.
Des cultures politiques locales non plus qui expliquent ça. C'est brutalement, finalement, les conditions de vie. Et quand on est pauvre, on a plutôt tendance à voter à gauche dans la période de bipolarisation. Et quand on est riche, et quand on est très riche, eh ben, on n'a pratiquement aucune chance de voter à gauche. Alors, le phénomène de tripartition brouille un tout petit peu cette lecture. Et du coup, est moins propice, disent Piketty et Cagé, moins propice à des avancées sociales, à ce qu'on peut appeler le progressisme. C'est valable à l'échelle nationale comme à l'échelle européenne.
Vous partagez ce point de vue ?
Alors, moi, un, je le partage. Deux, j'exprime mes petites frustrations.
Ouais. Des nuances, donc.
Oui, des nuances, parce que, alors, quelque chose tout bête. Deux choses toutes bêtes. Sur le plan de la méthode, Piketty et Cagé travaillent à l'échelle municipale. Tous ceux qui ont travaillé sur les élections dans une ville, comme Montpellier par exemple, savent qu'à l'intérieur de la municipalité de Montpellier, il y a des quartiers qui n'ont rien à voir électoralement avec d'autres.
Ni socialement.
Donc, se contenter de l'échelle municipale, c'est passer à côté d'une réalité qui est beaucoup plus fine et plus intéressante. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas les élections municipales dans leur travail.
Il n'y a que les élections nationales.
Oui, donc du coup, il y a toute une série de phénomènes d'identification, de rapport à la politique, au charisme d'un leader, à une culture politique singulière, à un espace qui échappe complètement.
C'est ça qui ne sont pas.
Voilà. De manière de faire vivre la politique au travers d'émotions, au travers de coalitions locales, de formes de regroupements sociaux, qu'illustrent par exemple les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'est pas un phénomène, on en a beaucoup parlé pendant le colloque du CEPEL en décembre, c'est pas un phénomène qui est identique dans le Var et dans l'arrière-pays héroleté, par exemple. Donc, prendre la mesure de ces cultures politiques, de ces différentes manières d'être en rapport avec la politique, eh bien, ça passe aussi par l'examen des élections municipales, par exemple, mais par un examen plus attentif à la caractéristique des territoires, à leur capacité à produire des émotions dans tel ou tel autre sens. C'est pas pour rien qu'il y a des territoires encore aujourd'hui qui sont complètement rétifs au Rassemblement national, alors que d'autres qui ont des compositions sociales à peu près identiques, se livrent complètement là-dedans aux élections européennes et nationales.
Donc ça appelle à des recherches complémentaires.
Mais c'est ça qu'il faut
plus localisées et plus fines.
C'est ça qu'il faut dire. C'est pas du tout une invalidation du travail de Piketty et Cagé, qui est encore une fois une somme extraordinaire. En plus, ils ont eu la générosité de laisser accès à la disposition de tous les chercheurs qui le veulent l'ensemble de leur base de données. Ça, c'est absolument formidable. Donc, je dirais bravo, merci, et à suivre.
D'accord. Alors, le temps file. Vous avez fait allusion au colloque. Bon, j'avais prévu une question, mais on va l'ignorer. Et dans la droite ligne de notre échange, la dernière question, à propos de l'extrême droite. Donc, la 11e enquête annuelle Fracture française, au pluriel, bon, gérée par Isosteria, Le Monde, la Fondation Jean Jaurès, CEVIPOF, hein, c'est Sciences Po Paris, l'Institut Montaigne, a livré en septembre dernier des chiffres alarmants, solidement étayés, me semble-t-il, puisque 12 044 personnes ont été interrogées. Ce n'est pas un vague sondage réalisé sur le coin de la table à la va-vite. Voilà deux de ces données que je retiens, que j'ai retenues. 44% des Français considèrent que le Rassemblement national est un parti capable de gouverner le pays. Ils étaient 33% en 2020, soit plus 11% en 3 ans. Et deuxième donnée, 40% de ces Français pensent que c'est un parti proche de leurs préoccupations. Ils étaient 29% en 2020, soit également plus 11% en 3 ans. Le contenu de la loi immigration récemment votée a confirmé clairement que les idées d'extrême droite pénètrent profondément la société française. Qu'en pensez-vous et à quel point faut-il s'en inquiéter ?
Alors, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Ce que je voudrais pointer, c'est d'une part le fait qu'effectivement, dans l'opinion, quand on le sonde de cette manière-là, l'acceptabilité des idées du Rassemblement national progresse de deux façons. D'une part, parce qu'on appelle depuis quelque temps l'ouverture de la fenêtre d'Overton, c'est-à-dire des propos, des idées complètement exclus du champ lexical du débat politique, deviennent petit à petit possibles à exprimer.
C'est-à-dire ce qui choquait autrefois, qui était un peu hors champ,
voilà,
et hors champ du débat politique ou du débat médiatique, a infusé, quoi, enfin en tout cas, ou a pénétré ces champs-là.
Voilà, absolument. Bon, des expressions de la part d'un leader libéral qui consiste à dire « la France doit rester la France », ben, la France doit rester la France, c'est Emmanuel Macron qui l'a dit hier, mais c'était M. Zemmour qui en parlait dans ces termes exacts, et une idée qu'il avait piquée d'ailleurs à Éric Ciotti quelques mois auparavant. Donc voilà, ça c'est le cas type d'une expression qui normalement n'aurait pas droit de citer dans le débat politique et qui petit à petit, par petites touches, devient provocatrice, devient marginale, puis devient un petit peu audible, fait l'objet d'un débat, fait le buzz, et puis devient majoritaire. Donc là, effectivement, il y a une sorte de glissement, mais je dirais que ça n'est pas tant le Rassemblement national qui opère ce phénomène que tous les acteurs qui sont autour et qui croient, disons, neutraliser le Rassemblement national en épousant leurs idées et leur vision, leur vision de la société. Or, en fait, là, c'est une considérable erreur, parce que finalement, et d'ailleurs Jean-Marie Le Pen l'avait théorisé, à mon avis, de ce point de vue-là, il avait raison, quand on croit en imitant quelqu'un devenir légitime, on légitime celui qu'on a imité davantage. Donc, les Français préféreront toujours l'original à la copie.
Et donc, puis, le deuxième aspect que vous vouliez souligner...
Oui, le deuxième aspect, c'est que finalement, quand on regarde alors, sur l'encadrement, le Rassemblement national a toujours énormément de difficultés à dégager des candidats aux élections locales. Et moi, je suis frappé par ce contraste entre une acceptabilité générale et le fait que finalement, le Rassemblement national, on n'en veut pas chez nous. Donc ça aussi, ça bouge.
Donc c'est-à-dire que la représentation par la candidature et puis ensuite par l'élection de ces idées qui se sont diffusées fait défaut en quelque sorte, hein, n'est pas au rendez-vous.
Elle n'est pas autant au rendez-vous que ces sondages que vous avez cités le laissent à penser. Et ça laisse surtout à penser que cette montée-là, elle est résistible, comme disait Bertolt Brecht.
Alors, on va s'en tenir là, parce que ce sujet-là appellerait bien sûr d'autres questions et d'autres apports de votre part. Merci Emmanuel Négrier.
Merci.
De votre contribution à la bonne connaissance de ces enjeux pour les auditrices et auditeurs de Divergence. À bientôt.
À bientôt.
Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Sarov.
Donc vous êtes une montpelliéraine, une pure jus.
Ben Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.